Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Sport, temps additionnel pour m'accompagner dans cette revue de l'actualité sportive. Maëlan sera dans le studio, bonjour Maëlan.
Bonjour Raphaël.
Et puis Alex sera toujours encore une fois à nos côtés, Adichas à toi.
Eh oui, Adichas Raphaël.
Au menu aujourd'hui, on parlera de la victoire du Stade Toulousain qui a encore fait un carton contre le Stade Français. Et puis on ira parler aussi du match contre Castres. On restera dans le rugby avec les Six Nations féminines, la victoire de la France face à l'Italie, on se posera la question, la France peut-elle aller chercher le trophée, sachant que personne n'a mis plus de 12 points à l'Angleterre, l'Angleterre qui est première du classement destination. On parlera de foot évidemment et la défaite du TFC, encore une fois on commence à avoir l'habitude, la cinquième Alex qui était pour nous, et on se posera aussi la question, est-ce que désormais l'objectif des Violets c'est de se maintenir plutôt que de ne rien jouer. On parlera aussi de Formule 1, le Grand Prix de Jeddah a donné son vainqueur, la victoire d'Oscar Piastri bien évidemment, qui passe premier au championnat, et Ferrari qui retrouve aussi le podium. Un mot de tennis, Rune qui gagne l'ATP de Barcelone face à Alcaraz, donc petite surprise, et enfin on terminera par des nouvelles du Phoenix. Tout d'abord, pour commencer, on va parler du Stade Toulousain qui enchaîne un nouveau succès en top 14 au Stade Jean Bouin face aux Parisiens du Stade Français en difficulté cette saison. On rappelle, la saison dernière, ils étaient plutôt pas mal, mais là, vraiment, ils rament un peu dans le fond du classement. Donc, victoire 27 à 21 dans un match périlleux pour le Stade Toulousain qui a fait tourner son effectif. Hein, pour ce match, on voit des noms qu'on voit un peu moins souvent, comme Saito ou comme Remu, le numéro 15. Donc pour moi le joueur qui a vraiment fait la différence ce match là pour moi c'est Juan Cruz Malia, il a été décisif dans la domination de Toulouse, il a eu son impact dans le jeu, ses transformations, ses pénalités en première comme en seconde mi-temps, et il vient même s'offrir un essai donc en fin de match pour tuer les espoirs parisiens. Un joueur très sympa, je l'ai croisé à Maquès, il est super sympa franchement, super joueur. Qu'est-ce que vous en pensez vous du match?
Ouais, ben on m'a dit que Juan Cruz Malia c'est un joueur qui est assez accessible en dehors du terrain, même toi tu en racontes des anecdotes. Oui, ben je vois toujours Juan Cruz Malia, il me parle. Mais pour moi, sur le terrain, il a montré que c'est un patron. Hein, parce que là, avec sa présence, mais quasi étouffante, on l'a vu, il était toujours présent, toujours là, dans tous les coups. Enfin bref, il est toujours là, quoi. Et il faut surtout parler de ses pénalités transformées et son essai à la 64e minute, qui a vraiment fait mal aux Parisiens. Hein. Pour le coup, je comprends un peu leur haine contre Juan Cruz Malia. Il a été plus qu'exceptionnel et c'est pour ça que pour moi, c'est le joueur du match, honnêtement. Après, oui, toujours côté individuel. Et je suis obligé de parler de Paul Coste. Hein. Genre à la 13e minute, il te fait un run exceptionnel. Bon, alors, c'est vrai qu'à un moment, il se fait chipper le ballon, mais il arrive, finalement, ce qu'on pensait qu'il allait avoir en avant, il arrive à s'utiliser le ballon d'un joueur parisien. Et on va dire, malgré quelques maladresses, il arrive à quand même inscrire l'essai. Donc ça, c'est quand même un grand. C'est quand même pas mal de voir ça. Pourtant, je pensais que ça partait mal. Mais bon, du coup, essai de Paul Coste et ça fait plaisir. Et voilà, après franchement honnêtement je te dis dans ce match je trouve que c'est quand même pas mal pour le club comme le Stade Français. On sait qu'en ce moment ils sont en galère.
C'est ça.
Ils sont proches de la Lanterne Rouge, ils sont à quelques points de Perpignan, enfin ils sont vraiment pas très loin quoi.
Bah là ils sont 12e, hein, 12e même point que Perpignan et à 4 points du Racing 92, donc les clubs parisiens, c'est pas la fête cette
C'est vraiment pas la fête, non.
C'est pas la fête cette saison. Et ouais, franchement Paul Coste qui vient lancer le match hein, finalement, parce que c'était sur ces 10 premières minutes, c'était un peu bloqué, on n'y arrivait pas. Un Stade Français qui répondait bien face à une équipe B quand même du stade Toulousain, mais bon, au final on a gagné. Ça fait la performance de Malia m'a fait penser un peu à faire le parallèle avec la performance tête de Thomas Ramos qui avait un peu raté, on va dire, ses quarts de finale contre Toulon qui a tout de même sauvé le stade à la dernière minute mais qui a raté. Donc sur le poste de numéro 10 de buteur, Juan Cruz Malia a fait le job face à une équipe du Stade Français qui avait faim, qui avait besoin de victoire, on leur a pas donné. Donc ça fait que nous, on est premier au classement avec 74 points et Bordeaux Blacks second, 69.
Après voilà, je te mens pas, le Stade Français, même si c'était en galère, ils ont quand même réussi à remonter, hein, c'était vraiment pas loin. Heureusement quand même qu'on a su conserver la victoire, parce que bon, alors c'est vrai, Toulouse avait un peu mis une équipe 2, mais ça veut rien dire, hein, c'est pas parce que c'est une équipe 2 que voilà. Parce que dans tous les cas, que ce soit l'équipe 1 ou l'équipe 2, Toulouse ils sont hyper forts. Et d'ailleurs on l'a vu, hein, même dans la composition d'équipe, il y avait quand même quelques joueurs internationaux titulaires. Hein, qui ont assumé leur victoire au Stade Jean Bouin.
Il y avait Movaka, il y avait Saito qui est titulaire toujours avec le Japon, Mathis Lebel, Choco Barres, Paul Coste, Castro Ferreira, qui sont des joueurs de rotation dans l'équipe 1, mais qui ont su s'imposer qui ont su s'imposer dans l'équipe 2 de Stade Toulousain, donc c'est une belle victoire. Pour le Stade, on va passer peut-être aux Six Nations féminines. Victoire de la France face à l'Italie, 34-21. Malène, t'as vu le match ?
Ben, les Françaises, elles ont été menées à la mi-temps, donc c'était vraiment inattendu. On ne s'y attendait pas. Les Italiennes, elles ont accroché tout le long, les Françaises. Mais heureusement, elles ont su inverser la tendance dans les deux dernières minutes, si je ne me trompe pas, avec deux essais. Donc ça fait qu'elles ont gagné 34-21. C'est des points très importants avant la finale face à l'Angleterre le week-end prochain.
Oui, c'est ça, week-end prochain. Week-end prochain, match face à l'Angleterre, donc gros match, puisque c'est les deux seules équipes qui n'ont pas perdu, qui se jouent. C'est une finale, hein, c'est clairement une finale. L'Angleterre qui fait, enchaîne les cartons.
Depuis 2018, elles n'ont pas perdu un match.
C'est ça.
Elles sont sextuples, quand même championnes du tournoi Destination. Et moi, par contre, je tiens à faire un petit clin d'œil au retour décisif de Romane Ménager, sachant que la bleue, la centre des bleus, elle a été blessée suite à une commotion en décembre dernier. Mais elle a pris part petit à petit au tournoi A7 à Hong Kong en mars et elle revient en force. Donc je pense qu'elle a fait une bonne rentrée et on espère l'avoir en forme pour la finale. Et que les Françaises, je pense, bon, elles sont clairement pas favorites. Hein. Mais elles sont là en outsiders et ça va passer. Ça va passer, j'en suis sûre. Il faut croire en elles. C'est une équipe, c'est comme les Français. On n'y a pas cru pour ce tournoi-là. Et au dernier moment, ils ont gagné, donc moi je pense qu'elles peuvent faire la même chose. Ça va être très dur, mais en extérieur, on peut créer une belle surprise.
Bon, on va parler du TFC, on est un peu obligé d'en parler, même si j'ai pas trop envie. Défaite de nos violets sur la plus petite démarche, 1-0 face au Stade de Reims ce week-end. Une cinquième défaite d'affilée donc pour Toulouse, la pire série depuis 2020. Et cette fameuse saison de la descente en Ligue 2, tout pour nous rappeler vraiment la sombre époque du TFC. Je m'en rappelle des joueurs de fou qu'on avait à cette époque. Mais ce n'est pas faute d'essayer. Hein, pour les hommes de Carles Martinez-Novel, nos Toulousains ont tenté des choses. 19 tirs et en tout 2 d'expected goals. Pardon. Donc devant les buts rémois, mais les Toulousains ont clairement manqué de réalisme face à cette équipe de Reims qui a fait le job pour son maintien finalement. Ils jouaient le maintien Reims et ils ont pris 3 bons points, 3 points capitaux pour la saison prochaine, pour rester en Ligue 1. Alex, tu y étais pour nous ? Qu'est-ce que tu nous ramènes de là-bas ?
Et tout à fait, Raphaël. J'étais au stade Auguste Delaune à Reims. J'y étais pour vous. Et j'y étais pour vous, mais je peux que constater ma déception, pardon. Hein. Après, voilà, c'est notre cinquième défaite consécutive. Et non, Raphaël, c'est pas la pire, en vrai, parce qu'on se rappelle la saison 2019-2020. 11 défaites consécutives. Donc là, on est qu'à notre cinquième. Bon, c'est pas non plus la fête. Hein. Quoique, on a fêté ça avec du champagne, avec les joueurs, bien sûr. Vu que c'était à Reims, hein, la capitale du champagne, tout simplement. Mais bon, on a plus bu du champagne pour oublier là, cette défaite, parce que bon, je suis pas du genre à me plaindre beaucoup de la prestation du TEF, mais en fait, quand j'ai vu le niveau de jeu qu'ils nous ont proposé là, contre Reims, c'était ignoble. Alors encore, mis à part quelques tentatives sur coup franc, puis même tu l'as expliqué au tout début, on a quand même fait des choses, mais on a quand même manqué pas mal de réalisme, et ça s'est vu. Et après, si je peux te dire un truc, c'est que bon, même si on se fait prendre à partie par Siebatcheux, Rémois qui ouvre le score là, 1-0, mais je peux pas en vouloir à Guillaume Reyes de pas avoir pu arrêter la frappe du 1-0. Enfin, je veux dire, c'était une frappe quasi lobée, c'était très compliqué, même pour un gardien pro de l'arrêter. Même si en ce moment, Reyes, il est pas trop en forme. Beaucoup de gens, je vois sur les réseaux sociaux, critiquent un peu sa performance. Voilà, j'aimerais bien le défendre, Guillaume Reyes, mais c'est pas vraiment sa faute là, dans ce but face à Reims. Surtout qu'en plus, il y a quelques moments où il a fait quelques arrêts. Tu sais, l'attaque Ito et Nakamura, les deux japonais de Reims qui sont hyper forts pour moi, sont vraiment les plus dangereux de l'équipe. Nakamura, à un moment, il a pu prendre en contre tous les joueurs du TEF. Et heureusement que Guillaume Reyes il pose son pied parce que ça aurait pu faire 2-0, ça aurait pu être encore pire. Sans parler de Ito qui te fait un enroulé, ça atteint la barre transversale, bref. Je vais pas trop parler non plus de l'effectif du Stade de Reims parce qu'on dirait que je suis rémois. Mais franchement, qu'est-ce que je te dis ? Malheureusement, on n'a pas su gagner face à une équipe qui, pour le coup, Reims est relancée depuis quelques temps. Ils ont gagné contre Marseille, Lens, il fallait que ça tombe sur nous. Puis même avec le carton rouge qu'on prend en début, ça ne nous a pas du tout aidé. Voilà. Mais je suis très déçu, mais on continue quand même derrière le TEF, c'est pas pour rien.
C'est le retour du FC Relance, on adore relancer les clubs, franchement c'est la marque de fabrique du TFC en ce moment. Donc 5ème victoire, ouais, c'est la pire série depuis 2020, mais c'est sûr que 2020, c'était chaud 2020.
Ah oui.
2020 c'était chaud, mais t'as souligné un truc, ouais, Guillaume Reyes qui redevient un peu décisif, Bon, sur le live, il peut rien faire, à part s'il fait vraiment la taille de Donnarumma et encore. Mais Guillaume reste décisif sur l'arrêt du où on peut se prendre le 2-0. C'est sûr qu'il est dans une mauvaise période. Après, il a, faut le rappeler, il a 19-20 ans. Donc c'est normal, hein. Franchement, en pro, il a enchaîné tous les matchs la saison dernière, il était exceptionnel. Donc bon, le TEF, franchement, manque de réalisme. Je repense à la stat, en fait, on a été la seule équipe de Ligue 1 à ne pas recruter durant le mercato hivernal. En mode, tout va bien. Tout se passe bien dans l'équipe, c'est parfait. Donc on se retrouve limite à jouer le maintien, c'est la question que je te pose, Alex. Est-ce qu'on joue le maintien sur ces 4 derniers matchs de Ligue 1?
C'est compliqué à dire, parce que là, ce week-end, on va affronter Nantes. Ensuite, on va enchaîner avec le Stade Rennais. Ensuite, Lens à domicile. Et à l'extérieur, Saint-Etienne pour le dernier match de la saison. Alors, comme ça, au vu de l'affiche, tu te dis que Nantes, bah, ils sont derrière nous, ils sont 14e. Rennes, bon, ils sont 10e, on les a gagnés chez eux à l'extérieur, j'y étais en plus. Voilà. Mais après Lens, on a pu gagner chez eux, mais au Stadium, ça va être plus compliqué. En fait, je te dis, le pire, c'est surtout à domicile. À domicile, tu sais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné, ça fait depuis janvier, face à Laval en Coupe de France. Et depuis, à part juste avoir arraché le nul à Nice et Monaco, on n'a fait que perdre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, la 5e défaite en ce moment, là, d'affilée. Ça se fête, hein, franchement. Donc moi, alors, si je reviens un peu dans le sujet que tu viens de dire, je pense pas qu'on va jouer le maintien. Enfin, ce serait pas qu'on joue quelque chose. Si jamais on finit barragiste, ce serait bien qu'à la fin de la saison, on se maintienne. Mais c'est pas ce que j'ai envie. Parce que voilà, moi, je pense, si on arrive à arracher au moins le nul à Nantes, ou si on arrive à faire quelque chose face à Saint-Etienne, on peut que être sauvé. Mais après, en vrai, je me vois pas vraiment être barragiste, parce que Le Havre, Saint-Etienne, Montpellier font pire que nous. Même au niveau de la Ligue 1, Montpellier devait être relégable. Sauf que là, ils n'ont pas encore été relégables à cause du niveau que proposent les autres équipes en ce moment.
Ben c'est ça, mais là, je vois sur les séries, on est sur la même série que Montpellier quand même. Hein. On est sur la même série que le dernier de Ligue 1. Donc, c'est des adversaires à peu près abordables, sauf, on va dire, Lens, mais qu'on a réussi à accrocher à l'aller chez eux. Donc, on peut le faire, hein, franchement, face à Nantes, c'est une équipe abordable qu'on aime bien battre. Hein. On sait qu'on aime bien les battre. Nantes, Brest, ils sont juste. Non, pas Brest. Rennes, ils sont juste au-dessus de nous. Ils sont sur 2 victoires d'affilée, donc ils peuvent aller chercher quelque chose. Nous, ça veut juste de pas se faire peur, quoi. Il faut juste confirmer, parce que Le Havre est à 7 points de nous. Donc, ils peuvent faire peur, quoi. Enfin, sinon, il reste quand même 4 matchs. Donc, ça fait beaucoup de points à engranger pour le TFC. Donc, je pense pas qu'on joue le maintien. Mais à voir si derrière ça fait des bonnes performances et que les 4 gars de derrière ils jouent pas des équipes du top 5. Faudra un peu s'inquiéter, mais peut-être avec les rumeurs sur Dubaï, on pourra les saisons prochaines éviter de s'inquiéter.
Ça, on verra bien avec Hurricane Investment, mais c'est vrai que je pense pas que si là on commence, parce que là on a quand même 5 défaites, si on fait 9 défaites, c'est sûr qu'on va pas se maintenir, on va devoir être barragiste, parce que bon, 9 défaites consécutives, j'ai jamais vu une équipe se maintenir avec ça. Encore, ce qui est bien, c'est qu'au moins on sera barragiste, ça veut dire qu'on va devoir affronter une équipe, mais malheureusement on aura encore la menace de tomber en Ligue 2, ce que je n'ai pas envie, ce que tu n'as pas envie non plus. Et donc j'espère juste que là les joueurs vont se remotiver à au moins chercher le nul, à faire comme si justement il fallait pas s'inquiéter pour tout simplement les barrages en Ligue 2. Enfin, on est un club de Ligue 1, on reste en Ligue 1.
C'est ça, je pense que le match contre Nantes il va être capital dans la suite, dans la fin de la saison. Donc à voir, match à Nantes, à la Beaujoire, le prochain match, donc à 17h15. Nantes qui a réussi à accrocher les Parisiens en début de semaine au stade de la Beaujoire. Et franchement, ça va être compliqué.
Ça va être très compliqué.
Ouais. Nantes, du coup, qui est sur une série d'espoir. Donc on va voir et on se tiendra au courant.
Voilà, on lâche rien contre Nantes et je serai là à Beaujoire pour vous.
Voilà. Et voilà, il y sera pour nous, Alexandre. On voyage un petit peu désormais. On va aller à Jeddah en Arabie Saoudite pour le Grand Prix de Formule 1 qui s'est déroulé le week-end dernier. Donc victoire d'Oscar Piastri, victoire de McLaren dans ce week-end sur le très rapide circuit de Jeddah en Arabie Saoudite. Le jeune Australien a su dicter sa loi tout simplement tout au long de la course, devant Verstappen pour Red Bull et Leclerc pour le premier podium de Ferrari. Depuis le début de la saison, une disette pareille chez Ferrari, c'était pas arrivé depuis 2009. Il predestinato, comme t'aimes bien le dire Alex, a su remonter la pente. A noter dans ce top 10 la présence à la 8e et 9e place d'Albon et de Sainz de l'écurie Williams, qui fait un début de saison canon, le meilleur depuis 10 ans. À cette même période, l'écurie anglaise, donc à 5 Grands Prix de la saison, l'écurie anglaise pointée à 0 points. Voilà. Donc pour compléter le top 10, Isaac Hadjar dans sa Racing Bulls, qui a su profiter notamment d'une bonne performance de ses pneus durs et de la safety car pour passer de la 14e à la 10e place.
Et Oscar Piastri s'offre une victoire enfin. J'attendais encore qu'il prenne la victoire, la tête du championnat, et c'est ce qu'il a fait. Et je pense qu'on peut compter sur lui. Ça relance tout au niveau du classement. Et Verstappen, il se plaint beaucoup de la voiture. Je pense que la voiture est bonne. Elle n'est pas incroyable, c'est pas la meilleure, mais elle est au niveau des meilleurs. Donc il faut y croire. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut qu'il arrête de se plaindre. Et même les 5 secondes, elles sont méritées. Il faut pas qu'il en démorde. Donc pour moi, c'est totalement mérité pour Piastri. Leclerc, enfin Ferrari sur le podium cette saison. Je pense qu'on attendait tous ça, parce qu'on a tellement vendu ce duo que on attendait des exploits de la part des deux. Hamilton a encore beaucoup de mal, mais on voit que Ferrari a une très bonne voiture, c'est juste qu'ils ne sont pas bons en qualif. Qualif, c'est pas possible. Je pense que c'est à ce moment-là, comme on dit, maintenant tout se joue au niveau des qualifs, et c'est maintenant que ça va se jouer. Donc je pense que Ferrari doit juste avoir une meilleure stratégie en qualif, parce que vu la puissance de la voiture, ce que nous a montré Leclerc lors du Grand Prix, c'était pas possible, c'était splendide. Donc moi, j'y ai cru au podium, mais j'avoue, dans les 3 derniers tours, j'ai eu un peu peur de Norris, mais il décroche quand même le meilleur tour, à noter, le britannique, mais le monégasque réussit à accrocher le podium. Aussi, moi, je tiens à noter, mais le travail d'équipe de Williams, Albon et Sainz ont réussi à maintenir l'écart avec le petit français Hadjar. Et ça a permis d'avoir la 8e et la 9e position. Donc, je pense que là, cette année, c'est bien lancé. On peut avoir une belle bataille pour le classement des pilotes. Mais je pense que là, il va falloir se dépêcher pour le constructeur, parce que McLaren est très, très, très bien parti.
T'as raison, moi, je reviens un peu par rapport à McLaren. C'est vrai qu'en ce moment, ils reviennent vraiment très fort. Avec justement Piastri qui finit premier, sans parler aussi de Lando Norris qui a eu tout simplement eu le tour le plus rapide dans ce Grand Prix. Donc deux McLaren, un au podium et un autre dans le tour le plus rapide. Et par rapport à Verstappen, oui, c'est vrai qu'il a tendance à se plaindre, on le connaît, c'est quelqu'un qui aime bien gagner, qui aime bien faire, enfin qui aime bien être... En fait, il est trop parfait, c'est ça le problème, c'est qu'il se sent comme un pilote trop parfait. Et quand il y a une petite erreur, il va commencer justement à se plaindre. C'est pas si mal, on le voit, il est deuxième quand même. On sait qu'on a l'habitude de voir à l'époque Verstappen qui gagnait tout le temps. Ça fait du bien quand même de voir que c'est pas Verstappen qui gagne tout le temps, parce qu'après je m'étais un peu lassé de la Formule 1 à force.
Maintenant c'est McLaren qui gagne tout le temps.
Ah non, c'est McLaren qui gagne tout le temps, oui. Puis Ferrari aussi qui est toujours là, mais après je tiens aussi effectivement à souligner la performance de Williams, parce que c'est vrai qu'ils étaient au plus bas. Mais avec Sainz et Albon, je trouve qu'ils complètent plutôt bien les deux. Sainz qui a fini 8e, c'est pas si mal, je trouve, surtout dans un Grand Prix comme Jeddah. Après, je tiens aussi à souligner, bien sûr, la performance de Kimi Antonelli, le rookie de Mercedes, qui aurait pu atteindre le top 5, mais deux Mercedes, 5e et 6e, c'est quand même pas mal. C'est vrai que fut un temps, 5e, 6e Mercedes, c'était impossible quand t'avais Bottas et Hamilton avant. Mais je trouve que par rapport à Russell et Antonelli, il leur faut un peu plus de temps, et je trouve que c'est plutôt bien. Voilà.
Il s'accroche, le petit Antonelli, il est juste derrière George Russell, donc il n'y a pas de souci. Et Charles Leclerc en fin de Grand Prix m'a fait peur, parce qu'il avait un très 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 bon rythme, mais Norris revenait comme une balle, il prenait une seconde à chaque tour sur Charles Leclerc, donc je me suis dit, ah non, ça y est, le podium va être... ce sera fini pour Ferrari, mais non. Et pour Max Verstappen, on sait son comportement un peu très pointilleux, il a envie de gagner. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait signer peut-être l'année prochaine chez Aston Martin, j'ai vu ça, pour un très gros contrat. Parce qu'on sait de toute façon que l'année prochaine, il y a changement de réglementation moteur. Donc peut-être que Verstappen a vu que Red Bull et Honda, le motoriste, n'avaient pas fait peut-être les meilleurs choix, et que peut-être Aston Martin avait fait de meilleurs choix pour la réglementation moteur. Donc Aston Martin lui propose un contrat, je crois, à 80 millions d'euros par an. Comparé à Red Bull qui le propose à 66 par an. Donc pourquoi pas, si Aston Martin a fait du bon boulot pour 2026. Il y a aussi Alpine qui apparemment a fait du bon boulot pour 2026, parce que Piastri a émis des idées comme quoi il pourrait être champion du monde dans les prochaines années. Donc un mot sur ça peut-être.
Est-ce que c'est une rumeur ou c'est...
Non, c'est des rumeurs, c'est des rumeurs. Mais les rumeurs en Formule 1, c'est...
Et on sait, on se rappelle avec Hamilton, la rumeur quand on disait il va signer chez Ferrari, au départ j'y croyais pas. tu vois maintenant, bah là justement il a fini 7ème dans ce Grand Prix avec Ferrari, tu te dis mais attends, mais Hamilton est vraiment chez Ferrari, bah oui. Ouais. Pourtant ça fait quelques mois que ça a commencé, mais dans ta tête tu te dis mais Hamilton il est vraiment chez nous. Parce qu'à un moment on se rappelle quand Ferrari était vraiment en galère, tu sais qu'à un moment Verstappen il avait refusé catégoriquement de signer parce qu'il y avait des on va dire qu'il y avait eu des problèmes entre les deux écuries, enfin entre Red Bull et Ferrari, il me semble que Ferrari avait accusé, mais je crois que c'était des rumeurs, mais ça c'était dans le passé, qui a accusé Verstappen de tricher. Verstappen qui n'a pas du tout aimé ces accusations, qui a dit je ne signerai jamais chez Ferrari. Donc c'est vrai que quand tu vois Hamilton qui signe là-bas chez Ferrari, tu te dis ah oui quand même c'est... Donc on sait jamais, tu vois, pour les rumeurs tout peut arriver. Surtout qu'en plus Aston Martin ce serait vraiment un très gros coup, parce qu'on connaît Aston Martin comme un peu l'écurie des retraités, enfin tu vois avec Alonso avec Aston Martin, tout ça, tu te dis que c'est pas vraiment une écurie qui est au premier plan. Donc si Verstappen, donc déjà ce serait exceptionnel dans l'histoire de la Formule 1 de voir Verstappen rejoindre une écurie comme Aston Martin, et surtout que ça permettrait à l'écurie de ne pas que jouer le top 10 ou dernier quoi. Donc ça peut être un grand coup, mais à voir.
Moi j'avoue j'ai du mal à y croire, hein, mais c'est comme pour Hamilton, hein, je suis d'accord avec Alex, j'y croyais pas et il a signé et le voilà dans une Ferrari, donc je pense que c'est compliqué. Il faut prendre ça en compte, mais sincèrement je vois pas Verstappen hors d'une Red Bull, mais à voir, hein. Et après je pense que ça fera énormément de bien à Aston Martin, parce que là cette saison c'est très compliqué. Après ils avaient dit que c'est comme Alpine, je crois que c'était à partir de 2026 qu'il fallait croire en eux, donc c'est comme on voit Alpine, ça progresse un peu, mais bon, si oui, on se crache dès le premier virage, ça va être compliqué, donc à voir.
Désormais, on va passer au tennis. Enfin, on parle de tennis, enfin, on a le temps de parler de tennis. Et on va parler de la finale de l'ATP de Barcelone qui opposait Rune à Alcaraz et ses victoires de Rune en 2-7, Maëlan.
Rune signe l'exploit en Espagne. Il bat Carlos Alcaraz en 2-7, 7-6 et 6-2. Le Danois s'offre son premier titre depuis 2 ans et entre dans l'histoire du tournoi. A noter qu'Alcaraz étant diminué, il ne pouvait rien faire. Il était blessé au psoas, donc ce fut très dur pour l'Espagnol. Et Rune, lui, est de retour dans le top 10. Il signe la 9e place de l'ATP. Et le message est clair, il faudra compter sur lui lors de la saison en terre battue. Et à rappeler que sa dernière victoire, c'était à Munich en 2023. Donc ça fait un petit moment qu'il cherchait, parce qu'après une saison 2024 très très compliquée, le Danois revient en force. Après, je pense que pour Roland-Garros, il peut aller quand même assez loin, parce qu'il m'a montré quand même de belles choses lors de sa demi-finale au tournoi de Barcelone. Après, cette finale, c'était un peu compliqué de voir le potentiel, parce que Alcaraz n'était pas à son prime, hein, physiquement, c'était très très dur, on le voyait, il a hésité à faire la finale, il a dit qu'il aimerait bien faire comme son idole Rafa et tenter le doublé Monte-Carlo et Barcelone. Ça s'est pas fait, trop blessé, et c'est là qu'on se rend compte de la performance de Nadal avec toutes les blessures, il a tout réussi. Il a réussi, bon certes, les dernières années, ce fut très très dur, mais il a quand même réussi 10 fois le doublé Monte Carlo Barcelone. Incroyable, une légende. Et on comprend pourquoi il a reçu un prix ce week-end aussi. À noter, il y a eu la remise de prix de meilleur athlète de l'année, de légende de sport, ainsi de suite. Et Rafa en a reçu un. Donc ça a noté l'espoir qui donne... aux athlètes, mais aussi aux fans. Donc moi, j'ai hâte de voir Roland-Garros. J'attends que ça. Et on peut avoir de belles surprises.
Et pour finir, un tout petit mot sur le Phoenix qui a gagné contre Istres ce week-end 39-32 dans un match dominé surtout en seconde mi-temps par les Toulousains. Donc victoire nécessaire après les deux défaites face aux deux premiers, face à Nantes et face au Paris Saint-Germain. Donc Toulouse qui repasse 5e devant Nîmes, on en avait parlé, Nîmes qui affrontait justement Nantes second, donc c'était le moment de repasser devant. Ça va être la petite guerre, hein, parce que seulement quelques points nous séparent des... un point finalement nous sépare de l'équipe de Nîmes. Donc à voir pour les prochains matchs du Phoenix qui affrontera Ivry, dernier du championnat avec 9 points, donc ce sera le moment de faire aussi le plein de points et de creuser l'avance face à l'équipe de Nîmes, qui eux affronteront donc Dunkerque sur une série de deux défaites d'affilée, donc c'est vraiment le moment pour le Phoenix d'aller creuser l'écart avec Nîmes.
Et voilà, t'as tout dit, hein. L'important c'est qu'il faut que le Phoenix conserve sa place européenne, parce que moi je les vois pas ne pas se qualifier pour la Coupe d'Europe. En plus ils ont fait un très bon parcours cette année. Ce serait vraiment dommage de voir Nîmes à la place de Toulouse. C'est pas parce qu'il y a une rivalité régionale, c'est juste quand même que le Phoenix est mieux taillé pour jouer l'Europe que Nîmes à mon avis. Et je vais revenir par rapport au match Toulouse-Istres. Alors Istres, c'est pas une équipe folle. En fait c'était le match piège, justement, c'était le match piège parce que Istres n'a rien à jouer. Ne serait-ce que, allez, peut-être pour éviter la relégation, puisqu'ils sont à quelques points d'écart entre Créteil, Chartres, et c'est son Rennes, Ivry. Font Ivry, eux, c'est sûr, ils sont hors de course, mais par rapport à c'est son Rennes ou Créteil, enfin les bons derniers, on va dire, c'est assez serré. Donc on va dire que Istres, c'était pas une équipe qui jouait grand-chose, et c'est pour ça qu'ils avaient rien à perdre. Et bien on l'a vu d'ailleurs, parce qu'en première période, le Phoenix n'avait que arraché que deux petits points seulement en première période, 17 à 15 pour le Phoenix. Et c'est qu'en deuxième période, à partir justement de la 43e, 45e minute, que là on a vraiment commencé à creuser l'écart. Et puis heureusement qu'on a continué quand même, parce que à la 60e minute, donc c'est quasiment fin du match, on a gagné tout simplement 39 à 32. Au départ on avait 39 à 31, puis les 30 dernières secondes avant la fin du match, tout ce qu'ils ont fait, Istres, c'était juste mettre le 32e, pas pour l'honneur on va dire, mais c'est ça qui compte, l'important c'est qu'on ait gagné contre Istres. Et effectivement, on va affronter Ivry bientôt. Donc Ivry, vraiment, c'est aussi encore un match piège. Et le 2 mai, donc c'est-à-dire c'est le dernier match. Là, c'est pour un peu assurer notre qualification en Coupe d'Europe contre Montpellier. Bon, c'est un grand pour le coup, parce que Montpellier est son troisième. Mais moi, je compte plus sur la victoire contre Ivry, qui va nous permettre, comme je t'ai dit, notre qualification en Coupe d'Europe. On va dire que Montpellier, c'est que le bonus.
Merci à tous d'avoir écouté l'émission Sport Quotidien Temps Additionnel. Merci à toi Maëlan.
Merci Raphaël.
Et merci à toi Alexandre.
Merci Raphaël, tout le plaisir est pour moi.
Il n'y a pas de souci. La semaine prochaine, on se retrouvera pour parler du Stade Toulousain et de son match face à Castres. Il y aura aussi le dénouement pour les signations féminines, cette fameuse finale, le crunch France-Angleterre. Pour le foot, Alex, il sera pour nous à Nantes. Il nous ramènera ses expériences de la Beaujoire et j'espère une belle victoire pour les violets, pour un peu se relancer. Restez sur du foot, évidemment, la Coupe du Roi en Espagne, le Classico Real-Barça. Barça qui suit une très bonne dynamique comparée au Real Madrid, donc ça promet. Du foot féminin aussi, avec les demi-finales de Ligue des Champions et nos Lyonnaises qui jouent leur match retour face à Arsenal où elles ont pris l'avance sur les Gunners avec une victoire de 1. On parlera de MotoGP avec la suite du championnat qui se déroule en Espagne pour finir un mot du Phoenix. Et on dit tous au revoir à Maëlan qui part de ce stage.
Mais
c'était
non,
la
Maëlan.
Dernière émission de Maëlan qui part dans un autre stage, donc c'était vraiment trop bien de faire les trois émissions.
Est-ce que tu veux qu'on fasse un chant pour Maëlan? Bah, et là, on t'oubliera jamais.
C'est vrai. Mais de toute façon, Maëlan peut-être reviendra l'année prochaine pour refaire les émissions. Donc, c'est qu'un au revoir, Maëlan. On lui souhaite bon courage pour son prochain stage. Et de toute façon, avec Alexandre, on vous dit
à la semaine prochaine.